7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, armée davantage l'Ukraine face à l'envahisseur. Les États-Unis réunissent aujourd'hui leurs alliés en Allemagne alors que la Russie brandit la menace d'une troisième guerre mondiale. Analyse dès le début du journal, Anaïs, après les autres titres.
Pékin redoute le confinement à la mode Shanghai. Les habitants font des provisions. En France, après la présidentielle, des électeurs parfois étonnés par les résultats dans leur ville. Nous serons à Narbonne. Et puis Toulouse, en Ligue 1 de football, 2 ans après l'avoir quitté. Explosion de joie hier soir au Stadium.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Et la droite dans tout ça. Les Républicains sortent laminés de cette présidentielle avec le mauvais score de Valérie Pécresse et jouent leur survie aux législatives. Un comité stratégique du parti aura lieu tout à l'heure. Il s'annonce électrique. Pour en parler, nous serons avec le député européen François-Xavier Bellamy à 7h50.
À tout à l'heure. On se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'écologiste Yannick Jadot pour sa première prise de parole après sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Vos questions, amis auditeurs, dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Jusqu'où la livraison d'armes et désormais d'armes lourdes à l'Ukraine va-t-elle entraîner l'engrenage d'une escalade vers un conflit mondial? 2 mois de guerre en Ukraine et une nouvelle fois la menace est brandie par la Russie. Les mots effrayent, ceux de troisième guerre mondiale. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Anaïs.
C'est le ministre russe des Affaires étrangères qui évoque ce risque réel de graves conflits au lendemain de la visite à Kiev de 2 ministres américains.
Oui, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, qui n'ont pas mâché leurs mots, assurant hier que l'Ukraine pouvait gagner la guerre, que la Russie était en échec. Pour Moscou et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l'escalade est désormais inévitable et le risque d'une troisième guerre mondiale est réel.
Londres et les États-Unis dissuadent Zelensky d'accélérer les négociations. Et même au contraire, il lui conseille constamment de durcir ses positions dans les négociations. Nous avons le sentiment que l'Occident veut que l'Ukraine continue à se battre. Et selon eux, épuise, assèche l'armée russe et le complexe militaro-industriel russe. Mais cette fin est une illusion.
C'est donc un avertissement sévère à l'intention des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN.
Et au cœur de l'escalade, Thibault, la fourniture d'armes, déjà près de 3,5 milliards de dollars des seuls Américains qui réunissent leurs alliés aujourd'hui à Ramstein.
Ouais, 40 pays représentés tout à l'heure qui devraient acter, donc sous le patronage américain, d'une nouvelle accélération de ces livraisons d'armes en Ukraine. Des armes toujours plus nombreuses sur le terrain, toujours plus puissantes aussi. L'envoi de pièces détachées d'avions de chasse a été évoqué la semaine dernière, des MiG-29 de Slovaquie, de Pologne et de Bulgarie, de l'artillerie lourde a été promise par le Canada, par les États-Unis. Emmanuel Macron, dans une interview à Ouest France, juste avant sa réélection, a parlé d'obusiers de type César, un des fleurons de l'armée française. Alors que les Russes ont perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, que l'offensive désormais restreinte à l'est et au sud de l'Ukraine patine, notamment dans le Donbass. Pour le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, la déclaration de Sergueï Lavrov est une nouvelle preuve des difficultés russes sur le terrain. Pour lui, je cite, Moscou sent la défaite venir en Ukraine.
Merci Thibault Lefebvre de la rédaction internationale. Réunion importante donc aujourd'hui à Ramstein en Allemagne. Sur le terrain, situation toujours bloquée à Mariupol. Les Russes continuent de pilonner le complexe sidérurgique d'Azovstal. Des combats aussi autour de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine partiellement encerclée. En Chine, l'implacable lutte contre le Covid va-t-elle s'abattre sur Pékin? Plusieurs dizaines de cas ces derniers jours dans la capitale qui créent un scénario à la Shanghai avec des habitants cloîtrés chez eux depuis début avril sans pouvoir en sortir. Pour l'instant, à Pékin, on en est au stade des dépistages massifs élargis depuis hier aux presque 22 millions d'habitants. La population se prépare au pire et continue de faire des stocks de nourriture. C'est ce que vous avez vu, Sébastien Berriot.
Une longue file d'attente a commencé à se former dès 9h ce matin devant ce supermarché du district de Chaoyang. Le scénario de Shanghai est évidemment dans tous les esprits. Pour le moment, les magasins sont bien approvisionnés. Cette mère de famille ressort avec 2 gros sacs remplis de denrées alimentaires.
J'ai acheté du pain, du bœuf sec, des saucisses, des légumes et des nouilles instantanées. Hier soir, mon mari a aussi acheté d'autres choses. J'ai suivi les conseils donnés sur les réseaux sociaux par la population de Shanghai aux habitants de Pékin. Ils nous ont conseillé d'acheter des aliments plus riches et nourrissants.
Des files d'attente sont aussi devant les centres de dépistage improvisés, des tentes installées partout dans les rues de la capitale dans le cadre de la campagne massive de tests lancée par les autorités. 3 dépistages obligatoires cette semaine et il faut prendre son mal en patience.
J'ai attendu 1h30. Dans ma cité, il y a des milliers d'habitants qui font le dépistage massif. La file d'attente est très longue.
On s'est fait tester au pied de l'immeuble. Je suis confiante pour Pékin, nous avons appris les leçons de Shanghai.
En fonction des résultats de ces tests massifs, les autorités décideront ou pas de confiner la capitale. Dans certains quartiers où il y a eu des cas de Covid, les habitants ont déjà reçu une interdiction de sortir de leur domicile. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
C'est un peu le hold-up du siècle, tout à fait légal. Elon Musk vient de racheter Twitter, 44 milliards de dollars déboursés, une menace d'OPA hostile, un conseil d'administration dos au mur et l'homme le plus riche du monde acquiert l'un des réseaux sociaux les plus influents de la planète. Le patron de Tesla affiche la couleur, pas assez de liberté d'expression à son goût sur Twitter, trop de modération. Précision tout à l'heure dans le journal de 8h.
Il est 7h06 et ça discute fort en coulisses, Anaïs, après la réélection d'Emmanuel Macron.
Oui, pas de déplacement, la campagne est bel et bien finie, mais des tractations sur le futur gouvernement. Le Conseil des ministres a été décalé à jeudi, ce sera sans doute le dernier de Jean Castex. Le nouveau gouvernement est attendu pour la fin de la semaine prochaine. Dans les partis politiques, l'heure est déjà aux législatives. Les Républicains en plein doute, tiraillés entre le macronisme et les extrêmes, sont en conseil stratégique ce matin à 11h. Officiellement, pas question de devenir un parti annexe de la Macronie, mais il y a la crainte des débauchages. Jean Rottener, président LR de la région Grand Est, se dit, lui, fidèle à son parti et souhaite une ligne de conduite claire.
J'ai depuis quelque temps exprimé clairement les choses. Je pense qu'au sein de ma famille, il y a 2 lignes et qu'il est temps de trancher sur ces 2 lignes. C'est comme parfois dans un couple quand effectivement bien il y a 2 lignes différentes, il vaut mieux se séparer. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas considérer qu'il y a une ligne libérale, humaniste, ambitieuse pour son pays, européenne, la mienne, et une ligne peut-être plus droitière, ayant pour certains quelques accointances avec le bloc national, potentiellement. Moi, je la refuse. Ce ne sera jamais ma ligne. Et je le dis aujourd'hui, haut et clair. Mais pour l'instant, je suis fidèle à ma famille politique, comme je l'ai toujours été.
Jean Rottener avec Patrick Janton. Il n'y a pas que les politiques qui s'interrogent, les électeurs aussi, un peu déboussolés après cette présidentielle et la drôle de carte électorale qui en ressort. Narbonne, par exemple, en 2017, Emmanuel Macron était arrivé en tête dans tous les bureaux. Cette fois, c'est du coude à coude, à peine 150 voix de plus que Marine Le Pen. Reportage dans une Narbonne coupée en deux d'Antoine Gignot.
Sur la place de la mairie, près des petits magasins de créateurs, le résultat reste difficile à comprendre.
Ah, moi, je suis toujours étonnée parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des gens à gauche. Il doit y avoir 2 villes, certainement.
Jeanne est professeure des écoles et Sophie, proviseur à la retraite.
Il y a les gens engagés plus à gauche, écolos, qui vont marcher bio, qui roulent à vélo, etc. Et il y a une population plus vieillissante et du coup à l'extrême droite aussi.
Moi, quand je suis arrivée, j'ai un collègue qui m'a dit « Ah oui, vous, les gens du Nord qui venez nous prendre nos postes ». C'est aussi un rejet de l'autre.
Et la limite entre les deux mondes est presque visible. Il suffit de traverser la voie ferrée, marcher vers l'un des 17 bureaux de vote où le Rassemblement National est arrivé en tête, près des immeubles du quartier Alsace-Lorraine. C'est là qu'habite Simone.
J'ai voté Marine Le Pen. Mais j'avais envie de changer. Elle parle bien quand même, elle avait des bonnes intentions. On est dans un HLM où, vous savez, nous maintenant on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre.
Rien à perdre, pas sûr, conclut Jean, sans s'inquiéter outre mesure du score de Marine Le Pen.
Ah bon, là j'ai 95 ans, je n'ai vu d'autres.
Il veut croire à un retour de la gauche. À Narbonne, Jean-Luc Mélenchon a fait au premier tour un score quasi égal à celui d'Emmanuel Macron.
Et la présidentielle, c'est aussi par exemple des bulletins. Mylène Farmer, découvert au dépouillement, 25 résultats insolites du second tour, c'est à lire sur franceinter.fr.
Ce ne sera plus jamais comme avant ce vendredi, 17h10.
Les mots de la présidente du tribunal d'Evry hier à l'ouverture du procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Elle parle du fracas des tôles, des linceuls de fumée après le déraillement du Paris-Limoges il y a 9 ans à 17h12. L'accident fera 7 morts, dont la compagne de Vincent. Il a aujourd'hui 44 ans et attend désormais des réponses. Mathilde Vince ne l'a rencontré.
Le 12 juillet 2013, Vincent et Morgane rentraient à Limoges après un voyage en amoureux quand leur wagon s'est couché sur les voies à plus de 130 km/h. Morgane n'a pas survécu, elle avait 26 ans. Vincent lui a été blessé, il se souvient de la violence du choc.
On n'est plus rien en fait, dans un wagon qui se renverse comme ça, avec la puissance qu'a le train, on est envoyé dans le décor quoi. Tout vole dans le wagon, les bagages, vraiment une énorme violence, beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. J'attends pas de ce procès qui me soigne. On est là pour expliquer au tribunal quelle a été notre souffrance, que les responsabilités soient mises le plus clair possible, qu'une telle catastrophe ne se reproduise pas.
Vincent aimerait désormais savoir, la SNCF aurait-elle pu empêcher l'accident, empêcher cette éclisse, cette sorte de grosse agrafe métallique, de se retourner et de faire dérailler le train? Le groupe affirme que non, mais les enquêteurs ont pointé un déficit de maintenance et d'entretien des voies.
Moi, c'est plutôt les mois et les années qui ont précédé l'accident. C'est difficile d'imaginer que les personnes sachant le risque d'accident qui grandissait, qu'il n'y ait aucun moyen de freiner tout ça et de dire stop. Ouais.
Vincent accuse la SNCF de manquer de transparence, de tenir un double discours, alors que les enquêteurs ont eu beaucoup de mal à obtenir tous les documents relatifs à la maintenance des voies.
Et l'ancien patron de la SNCF, Guillaume Pépi, témoignera jeudi à Évry. Il avait tagué des mosquées dans le Doubs. Un ancien militant du Rassemblement national, candidat au départemental en 2021, a été condamné hier. 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Les plus sincères excuses de Nestlé qui plaide l'erreur. Après ce bon d'achat de 20 euros envoyé à la famille d'une fillette contaminée par la bactérie Escherichia coli, elle avait mangé de la pizza Buitoni avant d'être hospitalisée. La multinationale explique qu'elle a envoyé des bons d'achat suite au rappel des produits. Mais pour maître Richard Legrand, l'avocat de la mère de la fillette, ça ne passe pas.
C'est consternant, c'est offensant. On parle d'une affaire qui a une ampleur nationale. C'est peut-être le plus grand scandale sanitaire qu'a connu le pays depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des décès, il y a eu des cas très graves et des séquelles irréversibles. Comment peut-on proposer ce genre de choses, ce genre de dédommagement à des victimes? C'est de l'indécence.
Maître Richard Legrand qui défend une quinzaine de parents dans cette affaire. L'humanité doit se désengager de sa spirale d'autodestruction. L'ONU appelle inlassablement à lutter contre le changement climatique. Nouveau rapport publié sur les catastrophes naturelles. Il y en a entre 350 et 500 tous les ans pour un coût de 170 milliards de dollars et leur nombre va encore augmenter. Allez, ça y est, ils l'ont fait finalement. Le TFC officiellement de retour dans l'élite du football français. Toulouse vainqueur hier 2-0 contre Niort. Un cadeau à la maison aux 24 000 supporters toulousains du stadium sur la pelouse au coup de sifflet final.
On a hésité, mais quand on a vu que les forces de sécurité étaient complaisantes, on y est allé.
Mais c'était dommage parce qu'on avait voulu voir les joueurs, mais ils sont pas là.
Mais c'est des choses qu'on verra qu'une fois, hein. Donc c'est merveilleux. On va essayer de respecter ce qui reste de la pelouse.
On dit souvent que Toulouse, c'est pas une ville de foot, c'est une ville de rugby. Et aujourd'hui, on a prouvé que Toulouse, c'est une ville de foot. Et tous les spectateurs sont là pour Toulouse. On est là, on envahit le terrain, on est là, on prouve que Toulouse est une ville de foot. Et on est en Ligue 1 et on fait tout ça ensemble après 2 ans. On est trop fiers de notre ville, on est fiers du football.
L'Europe est prévenue, on joue la Ligue des Champions et le Real de Madrid n'est pas prêt.
Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et c'était nous.
Voilà, les supporters contents et le Real Madrid hein, qui joue ce soir à Manchester City en demi-finale allée de la Ligue des Champions.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes à Auray. Les habitants ont dit oui à 50 plus avec Emmanuel Macron.